Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain et à la une, cette expulsion massive aux États-Unis. Plus de 200 Vénézuéliens présentés comme des membres de gangs envoyés vers le Salvador. Malgré une décision contraire d'un juge fédéral, Donald Trump a invoqué une loi datant de 1798, ce qui déclenche une vive polémique aux États-Unis. Notre dossier du jour au Mexique, où l'on déploie beaucoup d'efforts pour sauver l'ajolote, une petite salamandre menacée d'extinction. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. 5 ans après le début du confinement, décidé pour lutter contre la pandémie de Covid, on ira avec vous, Emma Jaconelli, dans l'ouest de la Guyane.
À Saint-Laurent du Maroni, que reste-t-il de ce confinement et des gestes barrières?
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et tout de suite, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Donald Trump reste inflexible sur sa politique douanière.
Oui, le président américain a réaffirmé cette nuit qu'il n'avait aucune intention d'assouplir les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium qui sont imposés aux partenaires commerciaux des États-Unis. Il entend toujours imposer début avril également de nouvelles taxes réciproques à ces mêmes pays. Une batterie de mesures qui pourrait peser sur la croissance mondiale, c'est en tout cas ce que révèle l'OCDE dans son nouveau rapport aujourd'hui. Pour en parler, Nathanaël Vitran. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Paul.
L'organisation qui regroupe une trentaine de pays de l'Europe occidentale à l'Amérique du Nord en passant par le Japon, la Corée et l'Australie, elle alerte donc sur les conséquences d'une guerre commerciale à l'échelle de la planète.
Oui, d'après ses prévisions, la croissance mondiale en 2025 devrait être légèrement inférieure à ses prévisions, à peine au-dessus de 3%, pour ralentir plus encore en 2026. Alors la prospective est un métier qui se pratique toujours au conditionnel, mais c'est particulièrement vrai cette année. L'organisation est obligée de préciser que ces données sont établies en partant du principe que les États-Unis imposeraient effectivement ces nouveaux droits de douane sur les marchandises importées du Mexique et du Canada, notamment le 2 avril. Avec Donald Trump, on n'est jamais sûr si le président américain devait finalement y renoncer. La croissance serait meilleure et l'inflation moins forte dans ces trois pays, assurent les auteurs. D'après les calculs des experts de l'OCDE, le Canada et surtout le Mexique ont le plus à perdre et risquent de basculer en récession. L'organisation note qu'à l'échelle mondiale, les échanges commerciaux ont été particulièrement dynamiques au premier trimestre 2025. Mais attention, une tendance en trompe-l'œil, anticipant les difficultés à venir. Les entreprises ont fait des stocks. Tout cela devrait pousser les prix à la hausse, déplore l'OCDE, alors que l'inflation reste une épée de Damoclès pour de nombreux pays.
Merci Nathanaël. Vitran, service économie d'RFI. Les États-Unis, engagés par ailleurs sur la voie de l'escalade avec les Houthis, les rebelles yéménites ont ciblé par deux fois cette nuit un porte-avions américain en mer Rouge en réponse à des frappes américaines sur le Yémen la nuit précédente, des bombardements qui avaient fait 53 morts, parmi eux plusieurs chefs clés des Houthis selon la Maison Blanche. Donald Trump avait promis l'enfer aux rebelles en raison des menaces de ces insurgés de reprendre leurs attaques contre le commerce international en mer Rouge.
Deux agents du Hezbollah visés ce matin par des frappes de l'armée israélienne dans le sud du Liban.
Mais déclaration des forces de l'État hébreu il y a 2 heures environ, le mouvement chiite libanais également dans le viseur de l'armée syrienne qui a commencé à déployer des troupes à proximité de Homs au sud-ouest de la Syrie, à la frontière avec le Liban, selon des médias locaux. Le ministère syrien de la Défense accuse le Hezbollah d'avoir tué 3 de ses soldats et a répliqué en bombardant des positions attribuées à la milice au nord Liban, des frappes qui ont fait 3 morts, dont un enfant côté libanais, selon la presse locale. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
D'où provient cette poussée de fièvre?
Ça a commencé ce dimanche. 3 soldats syriens exécutés après avoir été enlevés par des Libanais à la frontière. On ne sait pas formellement qui sont ces Libanais, mais pour les autorités syriennes, c'est sûr, c'est le Hezbollah qui a assassiné ces soldats. Il faut dire que ces hommes venaient de villages chiites dont les habitants ont la réputation d'être proches de la milice. Mais le Hezbollah, lui, a démenti formellement cela dans un communiqué.
Ces derniers événements s'inscrivent dans un contexte déjà fort tendu.
Pour rappel, le Hezbollah, c'est une milice chiite présente au Liban, proche de l'Iran, qui était alliée à l'ancien dictateur syrien Bachar el-Assad et qui était déployée par dizaines de milliers d'hommes dans toute la Syrie sous son règne. Les rebelles sunnites qui ont pris le pouvoir en décembre ont donc également chassé par la même occasion le Hezbollah de Syrie. Le pays n'est donc plus sous influence iranienne au grand dam de Téhéran. Reste maintenant à savoir si ce Hezbollah affaibli par sa guerre contre Israël ira sérieusement se confronter à la fragile armée syrienne.
Théo Renaudon, merci beaucoup. Le Rwanda annonce rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique. Selon le communiqué de Kigali publié à la mi-journée, Bruxelles a, je cite, constamment miné le pays bien avant et pendant le conflit en cours en RDC. Le Rwanda, qui est accusé par la communauté internationale de soutenir le M23 à l'offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. La décision rwandaise est disproportionnée, a réagi le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost. En parallèle, l'Union européenne a placé sous sanction plusieurs chefs militaires rwandais, un responsable du secteur minier, ainsi que des cadres du M23. 9 personnes ont donc l'interdiction de se rendre dans l'UE. Leurs avoirs vont aussi être gelés.
Le Pérou se met en ordre de marche pour lutter contre une flambée de violence dans le pays.
L'état d'urgence a été décrété en effet par le gouvernement hier dans 2 provinces, celle de Lima, la capitale, et puis la province voisine de Callao. Depuis janvier, selon les médias locaux, il y a eu plus de 400 meurtres dans le pays. Marine de la Moissonnière.
Dernière victime de cette vague de meurtres qui secoue le Pérou, le chanteur Paul Flores, dans la nuit de samedi à dimanche après un concert. Le car dans lequel il se trouvait avec son groupe de cumbia a été attaqué par 2 tueurs à gages en moto. La star, âgée de 40 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Avec ses musiciens, il était depuis longtemps menacé par un gang qui leur réclamait de l'argent. Au Pérou, les artistes, mais aussi les chefs d'entreprise et les commerçants sont régulièrement victimes d'extorsions. L'année dernière, déjà, les autorités avaient décrété l'état d'urgence dans certains quartiers de Lima et déployé l'armée en réponse à une série de meurtres de chauffeurs de bus, eux aussi rackettés. En plus de l'état d'urgence, cette fois-ci, le gouvernement promet une réforme du système pénitentiaire. Bien souvent, les gangs continuent d'opérer en toute impunité depuis leurs cellules. Des responsables politiques, mais aussi la Chambre de commerce de Lima, réclament la démission du ministre de l'Intérieur.
Marine de la Moissonnière. Et puis en France, une enquête académique pour tenter de faire la lumière sur le scandale de Betarame. Le rectorat de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, a lancé aujourd'hui une inspection dans l'établissement scolaire privé catholique. Plus de 150 plaintes ont été déposées pour des faits de violences physiques et sexuelles commises au sein de Notre-Dame de Betarame. Sylvie Coffi, bonjour.
Bonjour.
La dernière inspection dans cet établissement remonte à plus de 30 ans.
Oui, la dernière inspection date d'avril 96. C'était à la suite d'une plainte déposée par le père d'un adolescent. Son fils a eu le tympan percé suite à une violente claque donnée par un surveillant. Cet acte brutal avait attiré l'attention sur cet établissement. C'était la première fois. À l'époque, François Bayrou est ministre de l'Éducation nationale. C'est lui qui demande cette enquête administrative. L'inspection est menée par un homme de la même étiquette politique UDF que le ministre. Il conclut que Betarame n'était pas un établissement où les élèves sont brutalisés. Son auteur, âgé de 88 ans aujourd'hui, a reconnu que ce rapport, rédigé après une dizaine d'entretiens seulement, ne tenait pas la route. Mais pour le porte-parole du collectif des victimes de Betarame, si cet homme avait fait son travail correctement, on aurait évité tous les viols et les violences qui se sont déroulées pendant des dizaines d'années. Cette affaire a engendré une prise de conscience suivie de plaintes à l'encontre d'autres établissements catholiques et une commission d'enquête parlementaire, Paul, doit voir le jour très prochainement.
Merci beaucoup Sylvie Coffi pour ces explications. C'est la fin de ce journal. Je repasse la main à Anne Cantner pour la suite des RFI Midi.
Merci Paul Lancin-Spinelli, à tout à l'heure.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on va revenir maintenant sur cette opération, cette expulsion massive. Plus de 200 Vénézuéliens expulsés des États-Unis, envoyés au Salvador, où à peine arrivés, ils ont subi le sort réservé aux membres de gangs. Sur les images diffusées par le président Bukele, on peut les voir marcher tête basse, sous la pression des policiers qui les escortent, puis on exhibe leurs tatouages et ils passent entre les mains d'un agent qui leur rase la tête avant de les aligner tous dans leur tenue blanche, assis par terre. Donald Trump a présenté les personnes expulsées comme des monstres, mot immédiatement repris par le président du Salvador sur son compte X. Des membres du gang traînent des haraguas, en tout cas c'est ce que dit le président américain. C'est l'une des organisations criminelles les plus dangereuses dans la région, Alice Campagnol.
Tren de Aragua, quelques mots qui font frémir au Venezuela. Ce gang créé en 2004 dans une prison où ses membres bénéficiaient de tous les privilèges, notamment une discothèque et un zoo, a longtemps fait trembler de peur dans le pays. Homicides, violences, trafic d'armes, de drogue et traite d'êtres humains, la liste des crimes de cette organisation est longue. Et des liens avec les autorités à la tête du pays ont été révélés plusieurs fois. Avec la crise vénézuélienne, un tiers des habitants a quitté le pays. Alors, l'organisation s'est elle aussi déplacée. On retrouve ses branches en Colombie, au Chili, au Pérou et évidemment aux États-Unis. Donald Trump a qualifié le Tren de Aragua d'organisation terroriste globale et le considère comme une menace pour son pays. Pour le gouvernement vénézuélien, Washington viole les droits humains de ses migrants en les envoyant au Salvador, migrants qui, dans leur grande majorité, indique le communiqué, sont d'honnêtes travailleurs. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Les images s'affichent dans toute la presse sur le continent américain. Vous avez lu les journaux pour nous, Achim Lipold. Cette expulsion spectaculaire, elle fait débat aux États-Unis, car le président Trump s'est appuyé sur une loi de guerre qui a plus de 200 ans.
Exactement. Un juge fédéral avait pourtant ordonné samedi dernier la suspension de cette mesure qui invoquait effectivement une loi de 1798. Mais l'administration Trump a décidé de passer outre. La Maison-Blanche affirme que les trois avions qui transportaient ces détenus avaient déjà décollé au moment de la décision de justice. Washington estime d'ailleurs que cette décision n'a aucun fondement légal. Alors pour le New York Times, on se dirige vers un véritable showdown. Vous savez, ce moment du duel dans le western entre Donald Trump et la justice. Le quotidien évoque même le risque d'une crise constitutionnelle si l'administration américaine continue d'ignorer les injonctions des juges.
Alors le président du Salvador, lui, s'est moqué de cette polémique sur la légalité des expulsions. Il a publié dans un message une reprise d'article de presse qui citait l'ordre de retour intimé par un juge fédéral aux États-Unis avec ce simple commentaire « Oups ». Trop tard. Et puis Nayib Bukele a beaucoup médiatisé l'arrivée de ces plus de 200 Vénézuéliens sur son sol.
Oui, exactement. Il a posté une vidéo dans laquelle on voit les détenus qui descendent de l'avion à l'aéroport avant d'être conduits dans une prison de haute sécurité. Et là, ils sont identifiés. On voit aussi que leur tête est rasée. D'après le journal El Salvador, 238 membres présumés du Tren de Aragua ont été expulsés au total. Alors, cet accord entre les États-Unis et le Salvador prévoit que Washington verse 20 000 $ par détenu et par an, avec une enveloppe supplémentaire de 15 millions $ en cas d'autres expulsions, une mesure qui est critiquée au Salvador. Écoutez Ramon Villalta, directeur de l'ONG Iniciativa Social para Democracia. Alors, je viens d'apprendre, on n'a pas le son disponible. Donc, en fait, il nous disait que le Salvador, lui, ne devrait pas participer à cette mesure, selon Ramon Villalta. Il dénonce un manque de transparence et surtout une absence, en fait, de toute base légale pour accueillir ces détenus, pour conclure finalement que c'est une situation inédite selon lui.
La nouvelle politique migratoire de l'administration Trump, elle commence à avoir un impact sur les Vénézuéliens qui fuient leur pays.
Oui, le quotidien de Caracas, El Nacional, observe un changement de destination pour ces migrants qui se dirigent désormais moins vers les États-Unis. Bah, on comprend pourquoi, le Pérou ou encore le Chili, c'est l'Espagne et le Brésil qui apparaissent comme de nouvelles terres d'accueil.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, Arim, une nouvelle attaque contre un média dans la capitale.
Oui, les violences effectivement se poursuivent contre les médias. Dans la nuit du 15 au 16 mars, des hommes lourdement armés ont incendié et saccagé les locaux de Télé Pluriel situé dans la commune de Delmas. Vous savez, c'est dans la grande agglomération de Port-au-Prince. L'information a été confirmée par le média sur son compte Facebook. Un responsable de Télé Pluriel, interrogé par le Nouvelliste, explique que l'accès à la zone est très difficile, ce qui rend l'évaluation des dégâts compliquée, mais les pertes seraient importantes. Alors cette attaque s'inscrit dans une série de violences visant les médias en Haïti. En début de semaine, Radio Télé Caribe et Radio Mélodie ont aussi pris pour cible. L'association des journalistes haïtiens a fermement condamné ces attaques et l'attribue à la coalition criminelle Vive Ensemble.
Alors, à cause de cette situation sécuritaire catastrophique, de plus en plus de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, voire en dépendent pour survivre. L'ONG Alima fait partie de celles qui travaillent tant bien que mal dans la région métropolitaine de Port-au-Prince auprès de 12 000 personnes au cours de l'année écoulée et notamment sur les sites de déplacés. Sa représentante en Haïti, Virginie Vialas, parle de son quotidien à Marine de la Moissonnière.
À ce jour, en fait, le travailleur humanitaire est accepté dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et au niveau d'Haïti. Le travailleur humanitaire n'est pas une personne qui est ciblée. Donc, à ce jour, il n'y a pas de raison, en fait, que nous ne puissions plus travailler. On a 3 cliniques mobiles qui se déplacent chaque jour. Ces cliniques mobiles, en fait, elles vont dispenser des soins gratuits, tant des consultations médicales générales pour répondre aux besoins de santé courant, mais aussi des soins plus spécifiques relatifs à la femme enceinte allaitante. Et on ajoute à cela aussi des soins pour les survivantes de violences sexuelles, en particulier la prise en charge médicale et psychologique. Pour tout ça, en fait, nos cliniques mobiles, elles sont composées de 7 personnes. Donc, il y a bien évidemment le chauffeur, mais il y a aussi un médecin, on a l'infirmier, l'aide-soignant, une sage-femme, un psychologue et un spécialiste aussi en santé mentale.
Et vous n'avez pas spécialement de sécurité, de personnes qui vous accompagnent pour assurer votre sécurité ?
Alors, au niveau des cliniques mobiles eux-mêmes, nous n'avons pas d'agents de sécurité qui nous accompagnent. En revanche, nous avons, si vous voulez, un système mis en place directement au niveau des bureaux de la mission, où nous avons en effet des personnes qui sont habilitées à suivre la sécurité. Quand il y a une zone qui a un pic de crise, si on avait prévu d'être à ce moment-là, dans cette zone-là, nous avons décalé de quelques jours notre venue là-bas parce qu'il y avait trop de risques, on va dire. Donc, c'est un challenge chaque jour de pouvoir aller dispenser les soins auprès des bénéficiaires. Cependant, nous avons réussi à travailler de manière régulière durant toute l'année 2024. Il faut avoir une très grande flexibilité opérationnelle, mais cela ne nous empêche pas, en fait, de travailler.
Et vous soignez quel genre de pathologie dans vos cliniques mobiles ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Il y a beaucoup d'hypertension artérielle. Le stress de la situation peut être en effet un élément qui aggrave en fait ce type de pathologie. C'est là où on voit que les soins de santé mentale restent aussi des soins très importants pour eux parce que c'est à ces moments-là qu'ils peuvent aussi se libérer de certaines choses.
Virginie Vialas, représentante en Haïti de l'ONG Alima, au micro de Marine de la Moissonnière.
RFI Midi, Anne Contner.
Reportage au Mexique, au sud de la capitale, où vit une petite salamandre d'eau unique au monde. L'ajolote a un certain nombre de super-pouvoirs. En plus d'avoir toujours le sourire, elle peut aussi se régénérer. Mais cela n'a pas protégé des activités humaines. Aujourd'hui, l'ajolote voit son territoire, son habitat se réduire toujours un peu plus. Et l'animal est sur le point de disparaître définitivement, Marine Lebeg.
D'une main experte, Jennifer Tememilpa guide la pirogue sur les eaux calmes de l'un des canaux de Xochimilco. Cette commune du sud de Mexico City est une sorte de Venise, construite sur ce qui était autrefois un lac. On y circule uniquement via ces canaux entourés d'îlots artificiels, les chinampas, où sont cultivés des fruits et des légumes.
Nous arrivons sur une chinampa. C'est une construction imaginée par les Xochimilquiens il y a à peu près 1000 ans. C'est ici que vit l'ajolote.
Native de la commune, Jennifer Tememilpa est éducatrice environnementale au sein de l'association Humedalia, qui a pour objectif de restaurer et de protéger l'écosystème de Xochimilco, dont l'ambassadeur est l'ajolote.
Allez, viens, je vais te présenter Chico, l'un de nos ajolotes pionniers du programme de reproduction ici, chez Humedalia. Voici Chico. C'est une espèce de salamandre qui vit uniquement ici, à Xochimilco. Il a des caractéristiques très spéciales. La première, c'est son pouvoir de régénération. Si tu leur coupes la queue, une patte ou une branchie, ils peuvent la régénérer. On a aussi découvert qu'ils peuvent régénérer la moitié de leur cœur et la moitié de leur cerveau. De fait, les scientifiques étudient leurs cellules pour chercher de possibles remèdes contre le cancer.
En sus células, alguna cura del cáncer en ellos.
Sauf que ces dernières années, les canaux de Xochimilco se sont dégradés à vue d'œil, et avec eux, la qualité de l'eau où vit la roloté.
L'habitat de la roloté est en danger, et Xochimilco aussi est sur le point de disparaître.
Diana Mendoza est biologiste au laboratoire de restauration écologique de l'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique.
Les principaux facteurs qui ont mené à ce risque pour Xochimilco sont l'urbanisation, la mauvaise qualité de l'eau dans les canaux et l'introduction d'espèces invasives exotiques comme la carpe ou le tilapia, qui sont des poissons qui chassent la roloté.
En 1998,
il y avait à peu près 6000 roloté par kilomètre carré. En 2013, il n'y en avait plus que 37. Cette diminution est alarmante. Aujourd'hui, on dit qu'il a fonctionnellement disparu parce qu'ils sont tellement peu que la reproduction devient difficile.
Alors chez Umedalia, on tente de recréer les conditions favorables à la survie de la roloté.
Ce qu'on fait avec l'association, c'est qu'à chaque entrée des canaux secondaires, appelés apantles, on a installé des biofiltres. De l'autre côté du biofiltre, l'eau ressort de bien meilleure qualité. Regarde, on peut observer qu'elle est beaucoup plus claire, on peut même voir le fond. En ayant des conditions favorables dans ces canaux, on devrait pouvoir réintroduire des arrolotés via une condition appelée semi-captivité.
Une réintroduction en douceur pour surveiller la reproduction de cette espèce, car aujourd'hui, chaque arroloté compte. Diana Mendoza.
C'est une espèce étroitement liée à notre culture. La perdre signifie perdre une partie de notre identité. Grâce à ses caractéristiques, c'est un animal charismatique, mignon. Il a donc un lien particulier avec la population. Au niveau écologique, ce serait aussi une très grosse perte. Ici, au laboratoire, on dit souvent que la préservation de la roloté est liée à la préservation de son habitat. Donc, la roloté ne peut pas exister sans Xochimilco et Xochimilco ne peut pas exister sans la roloté. Perdre tout ça serait grave pour notre ville et pour le Mexique.
Perdre ça impliquerait beaucoup pour notre ville et pour le Mexique.
Xochimilco fournit presque un quart des ressources en eau de Mexico City. Si la commune et sa biodiversité disparaissent, la température pourrait grimper de 3 degrés Celsius dans la capitale. Marine Lebeg, Mexico, RFI.
Des espèces qui continuent de disparaître, toujours plus nombreuses à être menacées par les activités humaines. Malgré les appels des scientifiques, malgré les engagements politiques répétés, mais de façade, malgré les COP, la prochaine conférence sur le changement climatique se tiendra à Belém, au Brésil, à la fin de l'année. Le gouvernement veut en profiter pour mettre en avant la forêt amazonienne et son rôle essentiel à la survie de la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais, il y a un mais, des travaux en pleine forêt pour y construire une autoroute, Jeanne Richard.
Accueillir pour la première fois une COP en pleine forêt amazonienne, c'est un symbole fort auquel tient particulièrement le président Lula. Mais la réalité est loin de l'image d'une végétation luxuriante. Belém est une ville pauvre, polluée, rongée par la criminalité et les inégalités. Avec la COP, jamais autant d'argent n'a été investi pour rénover. Roberta Rodriguez, directrice de la faculté d'architecture et d'urbanisme du Pará, étudie l'impact de ces projets.
Il y a des projets qui n'ont aucun sens et qui sont même très contradictoires du point de vue de la COP et du changement climatique. Il s'agit surtout de travaux routiers qui donnent la priorité à la voiture plutôt qu'au transport public. Et nous savons à quoi ils sont liés, des intérêts immobiliers.
C'est le cas emblématique d'une autoroute censée désengorger la ville, mais qui doit traverser une forêt préservée.
L'impact est gigantesque alors que la loi l'interdit dans une zone protégée. Cela va polluer les sources d'eau et porter atteinte aux communautés locales traditionnelles en coupant leur territoire en deux.
Les organisateurs de la COP assurent que cette autoroute ne fait pas partie de leur projet. C'est le gouvernement local qui en assume la construction. Quoi qu'il en soit, pour la chercheuse, l'occasion est manquée de faire de Belém une ville verte et durable.
Le Brésil met sur le plan politique plusieurs milliers de sympathisants de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ont manifesté hier et la presse y revient. Achim Lippols, là c'est passé au bord de la plage de Copacabana à Rio.
Oui, avec le mot d'ordre exiger l'amnistie pour les personnes condamnées après les émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia. Jair Bolsonaro lui-même est menacé d'un procès pour un projet présumé de coup d'État ce jour-là. Selon O Estado, on a assisté hier à Rio à des funérailles politiques de Jair Bolsonaro, condamné à l'inéligibilité. L'ex-président est un cadavre politique. La manifestation était une sorte d'enterrement en cours. au cours duquel le futur mort avait le droit de prononcer presque un dernier discours, lit-on dans Oestad, un discours dans lequel il a cependant refusé d'être enterré, bah justement trop vite, souligne Folha de São Paulo. Jair Bolsonaro a maintenu son nom pour l'élection de 2026, écrit le journal brésilien.
Achim Lippold, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. Et tout de suite, l'actualité des Outre-mer françaises. Emma Jaconelli, il y a 5 ans, la Guyane, comme toute la France, se retrouvait confinée.
À Saint-Laurent-du-Maroni, d'où l'épidémie est partie sur le territoire guyanais, personne n'a oublié le confinement. Aujourd'hui, que reste-t-il des gestes barrières ou du port du masque ? Reportage dans la capitale de l'ouest de la Guyane avec Océane Dacunia de Guyane la Première.
Le confinement, 5 ans après, tout le monde s'en rappelle. Brice s'était senti chanceux.
Nous, à Terre Rouge, le confinement, c'était plus l'idée d'avoir du mal à faire des achats, avoir du mal à... Enfin, je sais pas, c'est la vie à l'extérieur du village qui était impactée. La vie dans le village, au final, je trouve limite que ça rapprochait des gens, ça créait du lien là où il n'y en avait plus. On pouvait se promener, aller au fleuve. On n'a pas eu cette sensation de confinement.
Les masques se font si rares dans les rues de la capitale de l'Ouest que les pharmacies n'en proposent plus en rayon. Dans cette officine, en centre-ville, plus un seul masque à la vente. On écoute Youssef Ben Ali, docteur en pharmacie.
S'il est de plus en plus difficile en fait, de commander des masques, aujourd'hui chez le grossiste, c'est vraiment impossible d'avoir des masques. Donc il y a très peu de patients, moi que je vois en tout cas dans l'exercice quotidien de la pharmacie, des patients qui viennent me demander des masques.
5 ans après la pandémie, ces ruptures de stock passent totalement inaperçues pour le grand public.
Les sargasses continuent de polluer les côtes antillaises. Météo France a repéré des amas menaçants de ces algues à 50 km de la Guadeloupe. Les sargasses, un problème de santé publique aux Antilles qui a déjà coûté plus de 53 millions d'euros. En Guadeloupe, justement, Manuel Valls a rendu une visite surprise aux victimes des airbags défectueux Takata qui ont coûté la vie à 15 personnes, dont 14 en Outre-mer. Le ministre a mis la pression sur les constructeurs automobiles et les concessionnaires. On l'écoute au micro de Guadeloupe la Première.
Et moi, je lance à travers les médias un avertissement sans frais aux constructeurs et à l'ensemble de la chaîne. Je pense notamment au contrôle technique. Chacun est placé devant ses responsabilités, constructeurs et services techniques. Donc chacun doit maintenant agir. Ici, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont perdu un être cher, qui ont été blessés et qui vont souffrir toute leur vie de ces blessures. Leur vie a été totalement changée. Certains ont perdu l'emploi, puisqu'ils ne peuvent plus, à cause de leurs blessures, l'exercer. Donc je lance un avertissement, que chacun agisse maintenant en fonction de sa responsabilité, parce qu'il en va de la vie et de l'intégrité physique d'autres personnes.
Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui conclut sa tournée antillaise en Martinique pour 3 jours, où il est très attendu, notamment sur le dossier de la vie chère.
Merci, merci Emma Jaconelli. On va se quitter avec de la musique et le titre Glory de Gabriels. C'est un extrait de l'album Angels and Queens.
Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand. Even Hades was a fan. You can fake it for a little.
RFI Midi.
In the valley of the kings, all the glitter, extravagant things, it was all that it seemed, in this nightmare of a dream. She took flight in a prime, I hope she had.
You can cry.
Glory de Gabriels, extrait de l'album Angels and Queens qui était sorti il y a 2 ans maintenant. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. Rendez-vous demain, 11h30, temps universel. L'émission du jour était réalisée par Yann Eligouin et dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix.